Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver et d'accueillir Sandrine Colette pour cette rencontre. On va bien sûr évoquer ce magnifique dernier roman publié aux éditions Jean-Claude Lattès, On était des loups. Voilà que j'ai... Alors, il y a peu de livres dont on sort à ce point transformé, enfin, qui incite à la réflexion, c'est une écriture, on va en parler, hein, qui m'a tenu vraiment en haleine, il y a une tension du début à la fin. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots de vous, de vos précédents livres. Vous vivez dans le Morvan, si je le souligne, c'est, à mon avis, ça a son importance. Parce que ce qui est marrant, c'est que le Morvan, est, à propos du texte de Sylvie Germain, dans au dernier baccalauréat qui avait été donné à l'épreuve du baccalauréat, je crois qu'il y en avait quelques-uns, notamment un qui ne savait pas où situer le Morvan, donc entre autres, j'ai pensé à ça, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Sylvie Germain aussi, j'aime beaucoup cet ouvrage aussi, Jour de colère, qu'elle avait écrit. Voilà, donc je ne sais pas si on peut faire un peu une parenté entre vos deux œuvres, mais c'est vrai que, voilà, il y a peut-être des points...
C'est un compliment si on le fait.
Voilà, écoutez, ça commence bien. Alors, vous vivez dans le Morvan, donc vous êtes notamment l'autrice de Des nœuds d'acier, Il reste la poussière, Les larmes noires sur la terre, et toujours Les forêts, qui avaient été couronnées, donc, entre autres, par le prix du livre France Bleu, page des libraires, en 2020, et le grand prix RTL Lire, ainsi que le prix de la closerie des Lilas. Et donc, le tout nouveau, On était des loups, chez Lattès, nous fait faire connaissance avec trois personnages principaux au départ de l'histoire, qui sont Liam, le père, Ava, son épouse, et Haru, son fils. Et alors, on est dans un lieu pas vraiment finalement défini, un lieu assez sauvage, un lieu rude, un lieu où il y a de la forêt, des montagnes. Plutôt, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce que je pose la question, j'y vais avec précaution, plutôt que de m'embarquer dans une longue présentation, je préfère peut-être lire le tout début. Je trouve que ça nous permet comme ça de rentrer déjà dans l'atmosphère du livre, qui est très importante. C'est la nuit. Je regarde l'enfant qui dort, un tout petit enfant. Il ne sait rien du monde. Il ne sait rien faire. Un enfant, ce n'est pas fait pour la vie. Cette vie-là, je veux dire, qui est immense et brutale devant lui, devant nous. La vie qui... L'enfant a des cheveux blonds, presque blancs, les mêmes que sa mère, ébouriffé par le sommeil. S'il avait les yeux ouverts, ses yeux d'un éclat bleuté transparent, je penserais encore une fois à mon père, son grand-père, qui avait lui aussi ce regard-là, avec ce ciel à l'intérieur. Une ondulation comme les grands lacs de montagne. Mais l'enfant dort et ses paupières sont baissées. Il a des petits yeux, et je me dis vraiment, tout est petit en lui. Ça grandira, bien sûr. Pour l'instant, le bleu de ses yeux ressemble à une tache de myrtille sauvage, celle qui couvre les sous-bois au début de l'été et que je rapporte à Ava pour qu'elle les mette en bocaux. L'existence d'Ava, ce n'est pas compliqué, c'est le gosse et la nourriture. La nourriture, c'est ce qui fait que tu ne vas pas crever l'hiver dans les montagnes, lorsque même le gibier le plus sauvage se planque à cause du froid. Les seules bestioles qui sortent, elles sont blanches comme la neige. C'est difficile de les repérer et quand tu les vois, elles t'ont déjà calculé. Le temps d'épauler, elles ont disparu. Alors chez nous, il vaut mieux avoir des réserves, et pas qu'un peu. Et le vieux Henri qui est à l'avion, celui qui habite à 3-4 heures de marche à l'est, le vieux, il a dit la première année, il a fini par bouffer les racines pour le passer ce foutu hiver. Après... Il savait. Moi, j'ai de la chance. Je suis un bon chasseur, un très bon même. C'est ce qu'ils disent tous ici, mais quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Quand la viande dort, elle dort. Alors l'été, l'automne, je crapahute dans la montagne, là où les cerfs et les lièvres et toutes les bêtes vont et je ramène ce que je peux. Les peaux ou les fourrures, parce que je les vends et qu'avec l'argent, j'achète ce qu'il faut pour Ava et pour le môme. Les provisions pour tenir la mauvaise saison, celle qui dure 4 mois. Ce n'est pas que je reste à ne rien faire de ma peau ces 4 mois-là, sûrement pas. Et puis ça me rendrait fou d'être à la maison et de ne pas bouger. Non, l'hiver, j'en profite pour réparer le toit, ou une porte, ou un auvent. Il y a toujours 1000 petites corvées qui attendent. Les enclos aussi, je les bricole. C'est important, les enclos. Pas tellement celui des poules encore que, mais celui des chevaux. Parce que les chevaux, c'est toute ma vie. Si je ne les avais pas, mes deux gros, je pourrais boucler ma valise et filer de cet endroit, car ici, sans chevaux, c'est comme sans armes. On ne tient pas longtemps. Leur enclos, j'y ai mis une batterie solaire à cause de toutes les saloperies de prédateurs qui viendraient me les écorcher la nuit, et ça les protège. C'est pareil pour les chèvres. Même si les chèvres, Ava les rentre dans la bergerie le soir, elles préfèrent. C'est vrai qu'un cheval, ça se défendrait le temps que j'arrive. Une chèvre, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une vie pour les chèvres non plus. Et à vrai dire, ici, c'est une vie pour pas grand monde. Voilà. Alors, peut-être deux questions. Ce choix de ne pas, de pas situer vraiment, chacun peut imaginer finalement un endroit peut-être voilà, complètement imaginaire. Donc, question du lieu avec, qui n'est pas nommé, qui n'est pas, on ne sait pas quand vraiment l'histoire se passe, même s'il y a tout un arrière-plan, ça fait penser peut-être à une forme de conte, enfin, il y a cette dimension-là. Et le choix d'avoir choisi la première personne et de faire parler Liam, qui est donc le père, qui nous raconte finalement une histoire. Voilà, c'est ces deux questions pour commencer. Et vraiment, bravo pour ce magnifique roman, Sandrine Colette.
Ben, merci beaucoup. Bon, alors évidemment, c'est pas un oubli de ne pas l'avoir situé, hein, c'est volontaire. Et mais c'est, en fait, c'était une expérience intéressante que j'avais faite avec mon premier roman, qui n'est pas situé non plus. Et dont on voit que c'est dans la campagne, a priori la campagne française. Et j'avais trouvé ça formidable parce que bon, on en avait pas mal parlé et j'ai entendu, alors non pas des lecteurs, parce que pourquoi pas, mais des journalistes présentant le livre et qui me disaient, alors c'est l'histoire d'un homme qui part en randonnée, ça se passe au fond des Pyrénées. Et il n'y a pas un nom de ville dans le livre, pas un nom de village, pas un repère. Oui. Et puis ailleurs, on me disait, bon ben voilà, ça se passe dans le Vercors. Et je me dis, mais bon, ben pourquoi pas, j'ai jamais démenti, parce que j'ai trouvé justement, et c'est l'intérêt ici aussi, que quand on ne situe pas un roman, ça peut être n'importe où, c'est-à-dire ça va être absolument partout plutôt. Et ça permet à chacun de nous, selon les endroits qu'on connaît et qu'on peut imaginer ressembler à cela, de se l'approprier beaucoup plus facilement. Alors évidemment, ça ne ressemble pas à la campagne française. Il faut quand même imaginer un endroit beaucoup plus grand, puisque Liam et son fils vont partir une semaine à cheval à peu près sans croiser âme qui vive. Donc même dans le Vercors, ça ne marche pas. Et donc on pense au Canada, on pense, si on veut, aux Appalaches, enfin... des grands espaces comme ceci, mais finalement ça sera dit nulle part et c'est un peu exprès, donc on se fait nos images à cela près que l'éditeur a fait à mon avis un coup de force avec la photo de couverture et vraiment ça ressemble. Donc, ah oui. Oui, on imagine que c'est au fond là-bas. Voilà, un beau reflet du livre, je pense. Et puis la première personne.
Est-ce que c'est important pour vous d'avoir, pour commencer à écrire, d'entendre, peut-être de vous mettre dans la peau peut-être du personnage, je ne sais pas. Enfin.
Oui, parce que, alors d'autant plus qu'en fait, c'est un roman que j'ai commencé à écrire de manière plus classique, à la troisième personne. Donc Liam rentre de la chasse, descend, sort du couvert de la forêt, etc. Et que j'ai arrêté d'écrire au bout de 20 ou 30 pages en me disant, mais horreur. Il n'y a aucune émotion dans ce livre. Je ne sais pas comment dire. Vous savez, quand on se relit et qu'on trouve que l'écriture est parfaitement plate, qu'elle ne donne aucune force, aucune dimension au personnage, rien du tout. Et donc, on sait que ça ne va pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, en fait, bah, j'ai cherché un peu. Je me suis demandé si c'était parce que le présent, parce que le passé, parce que, je ne sais pas, l'histoire, peut-être. Et à un moment... Bah, c'est exactement ce que vous avez dit. Je me suis dit, mais finalement, je suis en train de parler d'un homme qui est un chasseur-trappeur qui a choisi de se retirer du monde quand même, qui vit quasiment seul avec sa femme et son petit garçon, mais quasiment seul parce qu'en fait, il part des semaines entières à la chasse. Donc, il vit avec ses chevaux et pas beaucoup plus. Et ce type-là, donc, qui ne parle jamais, je suis en train de le faire parler. Donc, on est dans un paradoxe complet. Je ne peux pas avoir accès à lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, évidemment, il faut rentrer dans sa tête, rentrer dans ses pensées. Et à ce moment-là, c'est la première personne que j'ai essayé d'écrire. Donc j'ai changé les 20 premières pages en les passant à la première personne. Je les ai lues un petit peu à voix haute et je me suis dit, mais voilà, enfin, ça marche. Donc enfin, je peux faire parler cet homme qui ne parle pas. Parce que je suis dans ses pensées et dans le désordre des pensées de cet homme à qui il arrive une tragédie dès les premières pages.
Alors, c'est vrai qu'il y a ce lieu, bon, qui n'est pas nommé, mais quand vous écrivez, Sandrine Collette, est-ce que d'abord, alors ça dépend sûrement peut-être des romans, c'est pas forcément la même chose à chaque fois.
Mais ça dépend de la question.
Ça dépend, oui, et ça dépend. Est-ce que vous avez cherché d'abord l'idée peut-être d'un thème, entre guillemets, d'un sujet? Est-ce que vous avez d'abord un lieu, des personnages? Là, parce qu'il y a aussi l'importance des prénoms, hein, Aru, Ava, Liam, des prénoms très courts qui peuvent avoir une sorte de consonance, pourquoi pas scandinave, je ne sais pas, enfin, un truc un peu de l'univers des contes, et on peut fantasmer, on peut imaginer ce qu'on veut, mais est-ce que c'est important pour vous d'avoir les prénoms, peut-être, pour vous mettre à écrire, pour commencer, est-ce que vous avez besoin d'une longue maturation, ou par exemple, pour le cas de ce livre-là, prenons cet exemple concrètement, ou est-ce que vous vous mettez à écrire quand vous avez déjà une idée des personnages, d'un vague plan, peut-être, savoir où vous allez, Ça, il s'agit d'un cheminement, on va le voir dans ce roman.
Donc. Oui. Mais en fait, ce livre-là, c'est l'anti-exemple pour moi, parce qu'en général, je mets un temps infini à trouver une idée de livre, et ça me fascine toujours parce que j'ai des amis auteurs qui me disent « mais moi, j'ai des milliers d'idées, je foisonne, enfin voilà, j'en ai pour jusqu'à la retraite », mais simplement, écrire, c'est une sinécure. Il faut relire 12 fois la même phrase. J'ai une amie qui relit 12 fois chaque phrase, qui la retravaille 12 fois. Et moi, je me dis, je suis exactement à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai un mal fou à construire une histoire. En revanche, une fois qu'elle est dans ma tête, elle se déroule toute seule. Et je dirais bien que je mets en général autant de temps à inventer et construire l'histoire qu'à l'écrire. Avec un plan, effectivement. Et celui-ci, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'avais commencé à écrire quelque chose d'autre, et le hasard d'une discussion, le déclic, etc., font que je suis rentrée chez moi en ayant cette idée de travailler sur la relation entre un père et son fils, et entre un père qui ne voudrait pas de son petit garçon, et que ça m'a parasité au point que j'ai abandonné le livre que j'étais en train d'écrire et que j'ai commencé avec la première phrase et j'ai déroulé sans savoir, à peu près sans savoir où j'allais. Oui. Donc c'est, il est très à part pour cette raison-là. C'est un livre vraiment très instinctif, très tripal, pas du tout pas cérébral. Ça se sent d'ailleurs, mais mon personnage m'a aidé là-dessus parce que c'est pas vraiment un intellectuel, donc c'était plus simple. Et voilà, c'est un roman écrit dans un souffle, dans un temps beaucoup plus court que tout ce que j'ai jamais pu écrire. Donc il y a des lecteurs qui m'ont dit ah bah oui, parce que en plus vous êtes devenue paresseuse, il est plus court. Alors oui, certes.
C'était plus facile de faire.
Oui, mais bon, en tout cas, disons qu'au bout des 200 pages, de toute façon, moi j'avais plus de souffle, donc c'était hors de question d'en faire plus. Ça me semblait vraiment être le bon timing, les bonnes proportions. Mais voilà, écrit d'une traite. Et la seule chose qui me fasse plaisir, c'est que j'ai des lecteurs qui me disent qu'ils l'ont lu d'une traite et en apnée, que ça leur a fait aussi mal qu'à moi, parce que quelques heures d'apnée, c'est dur.
Alors oui, je disais, parce que y a quand même esquissé au début du livre. Après, bon, bien sûr, on part sur autre chose. On va suivre vraiment le parcours justement d'un père et de son fils. Il y a bien sûr une tragédie qui va arriver entre temps, mais on voit c'est évoqué en quatrième de couverture du livre. Mais je ne sais pas si c'est bien de découvrir, je trouve, en le lisant, parce que c'est vrai que il y a quand même une tension là aussi. Il est dans la nature, il part chasser, il entend les loups et après il revient. Bon, je pense qu'il faut garder quand même cette. Je trouve, hein, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être Sandrine Collette, mais il faut garder un peu pas la surprise, mais le cheminement, la progression. Quand il rentre chez lui, il va découvrir. Bon, je n'en dis pas plus. Est-ce que. Oui, il y a ce thème des néo-ruraux, là, des jeunes qui viennent s'installer au début, qui n'arrivent pas à s'installer. Comme si un peu, on va dans un endroit, on n'a que. Je le vois comme ça, mais peut-être je me trompe. On n'a qu'un rêve, on dit on va s'installer là. Et finalement, si on n'a pas les moyens, la force, la préparation, et ben finalement, ça échoue. Quoi. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez aussi, même si c'est un effet qui est fleuré. Après, on passe à autre chose, bien sûr, mais c'est quand même important de le marquer.
Oui, alors ça me suit, cette question des néo-ruraux, parce qu'en fait, comme ça a amusé beaucoup les lecteurs, on me parle de ça souvent. C'est vraiment l'idée. Je trouve qu'on se fait trop facilement d'une nature accueillante, régénérante, douce, etc. Et je me dis, non, la nature est belle, ça, oui, vraiment. Mais alors effectivement, quand il fait beau, qu'il y a des fleurs et des oiseaux qui chantent, c'est mignon. Mais la nature réellement, ce n'est pas ça. Et donc, dans le coin où j'habite, qui même avec le Covid n'a pas été foncièrement envahi par les citadins, mais il y en a quelques-uns qui sont arrivés quand même, et on a observé vraiment ça. On a des gens qui étaient pas très loin de chez moi. Alors j'hésite à le dire parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai dit dans une librairie, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec et qui m'a dit bah, « Vous savez, le type dont vous avez parlé, là, j'étais chez lui hier soir. » Donc c'est un copain. Donc je lui dis « Où, pardon ?» Et il m'a dit « Non, non, mais vous avez tout à fait raison, je ne sais pas ce qu'il fait là. » Et donc c'est un type qui avait les cheveux aux fesses, avec une allure d'une nonchalance et dont vous vous dites « Mais qu'allait-il dans le cœur dans cette galère ?» quoi. Informaticien, et qui arrive en me disant « On va faire du maraîchage bio dans la terre du Morvan. » La terre du Morvan, c'est granitique. Donc c'est du granit décomposé qui a fait une terre pauvre, aride, et en fait il n'y a que des agriculteurs à vaches, enfin des éleveurs donc, et s'il y a des vaches c'est parce que la terre n'est pas assez riche pour qu'on puisse faire des cultures. Et donc il est arrivé de la région parisienne avec sa femme en disant on va faire des légumes, ça va être génial. Je lui dis c'est quand même 2 hectares de terre jaune pleine de cailloux. Et ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et donc aujourd'hui, c'était quand même une assez jolie maison de pays. Donc je suis un tout petit peu déçue, mais avec une grande cour qui avait été refaite, très jolie. Des massifs de cosmos, enfin des trucs vraiment bien. Et la dernière fois que je suis passée, l'été dernier, il y avait des herbes, des mauvaises herbes absolument partout, de la route jusqu'à la maison. Et sans doute à la tondeuse, un petit chemin avait été fait jusqu'à la porte de la maison depuis la route. Donc c'est ça, c'est un clin d'œil en fait. C'est le clin d'œil à ces gens qui pensent que la nature c'est facile, disons simplement. Parce que au mieux la nature, moi je trouve que c'est fascinant justement, c'est cyclique. Donc chaque année, mais vous avez encore des gens qui vous disent mais attends là. On coupe le bois mort et on le ramasse et là on laboure ça, mais l'année prochaine aussi. Je dis mais oui, oui. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qui fera que la nature nous survivra aussi. Hein, c'est qu'elle a cette force et ce rythme et ça revient tout le temps. Voilà, ça revient chaque fois. Et la nature donc n'est pas, je pense, le doux petit cocon qu'on imagine parfois. Alors, je sais maintenant, parce que j'ai des retours de lecteurs, que je ne suis pas la seule à le dire. Il y a 10 illustres auteurs qui l'ont dit avant moi. Mais quand on sort le soir ou la nuit à la campagne, au calme, pour regarder les étoiles, en général, on ne peut pas regarder les étoiles une demi-heure sans entendre un cri qui traverse la campagne, le cri d'un mulot ou d'un lapin qui vient de se faire attraper par un renard. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une nuit qui se passe sans qu'il y ait ces espèces de tragédies qui se jouent de l'autre côté des fenêtres et qui font que dans la nature, dans la campagne, on crie et on meurt. Tout le temps. Et la nature, c'est ça. Donc il y a vraiment une seule loi dans la nature qui est celle de la survie et de la conservation de l'espèce. Et au-delà de ça, je pense qu'il n'existe rien. Donc pour survivre, on l'a fait nous en premier, hein. Pour survivre il faut tuer, hein. Donc on mange des lapins et des mulots toute la nuit. Et c'est, en fait c'est pas forcément l'image qu'on se fait de la belle nature accueillante quand on fait des câlins aux arbres, si vous voulez. En fait moi je trouve ça très émouvant,
la sylvothérapie là,
c'est ça, oui. Mais je suis pas sûre, enfin, l'arbre n'est pas heureux forcément qu'on lui fasse un câlin, et tant mieux si ça nous fait du bien à nous. Mais je pense qu'on anthropomorphise beaucoup trop la nature, c'est-à-dire qu'on lui prête une générosité et des sentiments qui n'appartiennent qu'à nous. Voilà. Et donc je rétablis un tout petit peu,
oui,
ça.
Oui, alors c'est vrai que là, vous n'anthropomorphisez absolument pas, en effet. C'est une nature brute de décoffrage, telle qu'elle est. Et finalement, ce personnage de Liam s'inscrit parfaitement dans cette mouvance-là. Ce qui est très réussi aussi dans le livre, c'est vous esquissez, on apprend des petites choses, mais comme ça, au détour d'une phrase, un peu sur son passé. Là, voilà, c'est quelqu'un de, voilà, qui a vécu visiblement une enfance. À un moment donné, vous parlez, de, je crois, de tric et d'alcool. Enfin, bon, quelqu'un qui est dans des rapports de force, il a du mal. Mmh. Et c'est vrai qu'il est un peu dans la survie, finalement. Il est aussi dans un rapport, je trouve, avec donc Ava, son épouse, un rapport un peu de domination. Enfin, c'est un peu lui qui a choisi de venir s'installer là. Elle a suivi, si je puis dire, si je vous ai bien lu.
Elle était d'accord, si je peux.
Elle était d'accord, mais oui, mais enfin, bon, il est quand même un petit peu, voilà, il surplombe un peu les choses. Est-ce qu'il y avait justement cette idée aussi, je trouve, de ils reproduisent un peu entre eux dans les relations humaines, finalement, une forme aussi de côté un peu brut, un peu rude, qui peut y avoir aussi dans les rapports avec la nature, et une dimension importante dans le livre qui est aussi les rapports de l'être humain, de l'homme en général, avec le monde animal. Voilà, je trouve que c'est un peu. Est-ce que c'est ça, ces choses que vous aviez envie, j'imagine, de mettre en avant et de reprendre un peu, comme vous le faisiez déjà, cette dimension naturelle importante dans Et toujours les forêts, précédent livre.
Oui, c'est vraiment mon dada. Effectivement, c'est oui aussi les relations entre l'homme et la nature, la part animale qu'on retrouve dans l'homme éventuellement. Et non, mais moi, il y a quelque chose qui me questionne, qui m'interpelle dans. Je digresse, pardon, mais j'ai lu il y a pas très longtemps un article. Qui expliquait un truc mais incroyable, j'ai trouvé. Ça parlait des mammifères, et l'article est volontairement provocateur, je pense, puisque il dit tous les mammifères ont la même durée de vie, donc nous en faisons partie, hein. Et je me dis non, mais si je me souviens bien, la souris est un mammifère aussi, enfin voilà. Et donc je découvre que tous les mammifères ont la même durée de vie en nombre de battements de cœur. Et que donc tous les mammifères vivent environ 800 millions à 1 milliard de battements de cœur, quel qu'il soit. Simplement la souris a un pouls qui bat à 500 pulsations minute à peu près, et l'éléphant à 30. Donc ça donne pas le même nombre d'années, effectivement. Mais tous les deux, sauf prédateurs, donc sauf chat et sauf souris, tous les deux vont vivre à peu près le même nombre de battements de cœur. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et l'article expliquait, il y a aussi un rapport avec la masse corporelle, mais qui est moins important. Mais et dans cet article, donc, ils expliquaient que l'homme naturel, l'homme préhistorique, l'homme même encore du Moyen-Âge à peu près, vivait lui aussi 800 millions à 1 milliard de battements de cœur. Aujourd'hui, on vit 3 milliards de battements de cœur. Et vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je dirais c'est pour moi une des images les plus flagrantes de la façon dont on s'est éloigné de la nature, même si c'est pour un bien de vivre plus longtemps. Mais à l'origine, l'homme vit 30 ans à peine, même pas. Les progrès de l'hygiène, les progrès de la médecine, la civilisation, etc., font qu'aujourd'hui, chez les mammifères, nous sommes les seuls à être sortis du cycle naturel et à vivre 3 fois plus longtemps que nous devrions. Et après, bon, ça c'est un roman, mais c'est ce rapport permanent qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on est sorti de ça, et comment est-ce que Liam, justement, qui dit à un moment « on était des loups avant », dans cette sorte de mélancolie d'un moment ou d'une époque peut-être où il y avait une unité entre l'homme et la nature, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Et quand on dit ça encore aujourd'hui, moi ça me paraît être un contresens. Il y a la nature et on est à l'intérieur. Mais non, on s'est mis dehors et on s'est mis en opposition. Donc c'est vrai que c'est ça qui traverse un peu tout le livre, la façon dont Liam, lui, il est revenu à ça en se disant « je m'extrais de la société des hommes et je me réancre quelque part dans la forêt, dans les montagnes, loin des hommes ».
De l'importance aussi du ressenti, de la sensation, je trouve qu'elle est très présente, notamment chez lui, pas seulement, mais le soir où il rentre justement de cette... équipé, si je puis dire, un peu sauvage, oui, voilà, il va découvrir la tragédie en question, eh bien, il est dit, vous l'écrivez, il sent quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la... plus qu'il ne voit, en fait, c'est ça, l'importance des sens en éveil constant, puisqu'il va chasser. Donc, il y a vraiment comme si vous vouliez remettre, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, en avant cette notion de sensation, mais pure, au sens de...
Oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que quand on discute avec les gens autour de soi, vous savez, le nombre de fois où il se passe quelque chose et on se dit après, je le savais. En fait, c'est pas je le savais, c'est je l'avais senti. Et c'est ça, l'instinct, le sixième sens, la sensation qu'on serait capable normalement d'entendre et puis qu'on a perdu de vue parce qu'effectivement, on est devenu des êtres civilisés avec peut-être une enveloppe un peu trop épaisse pour avoir accès encore à toutes ces choses-là. Et alors, c'est pareil, vous allez dire c'est pénible, mais je digresse encore.
C'est très bien la digression, ça permet aussi parfois de...
Ben non, mais ça me fait penser justement à ça quand on, le sixième sens ou quelque chose qui est au-delà de notre simple humanité. Et je repense à un fait divers quand j'étais enfant, je ne sais pas où ça s'est passé, je ne sais absolument plus rien dessus, sauf que les parents en avaient parlé, on avait une dizaine d'années, et ça, moi ça m'a marqué d'une façon que aujourd'hui encore j'y pense, ça me donne des frissons. Et je pense que ça a profondément marqué toute mon écriture. C'était un tout petit fait divers. Une maman qui traversait une rue avec son petit garçon de 4 ou 5 ans et une rue où des voitures étaient garées. Donc une file de voitures garées et sans faire attention, en fait. Ils n'ont pas fait attention au fait qu'une des voitures était en train de faire un créneau pour partir et n'a pas vu le petit garçon qui était petit et qui était donc caché par l'arrière de la voiture. Et donc la voiture recule et couche le petit, enfin écrase le petit sous la voiture, et la maman soulève la voiture. Soulève la voiture, alors je ne dis pas qu'elle l'a soulevée mais qu'elle l'a jetée, hein. A soulevé la voiture dans la fraction de seconde suffisamment pour que des gens qui étaient autour puissent sortir le petit garçon d'en dessous. Et ça, je me dis, voilà, si elle s'était posé la question avant, si elle avait pris le temps de se poser la question, elle n'aurait jamais réussi. Et je me dis que ce qui s'est passé là, c'était au-delà de la pensée, au-delà des mots, au-delà du raisonnement. Et je pense que c'est la ressource animale qu'on a au fond de nous et qui permet qu'on fasse des choses incroyables. Alors, animale ou surhumaine, mais en tout cas, qui n'est pas juste simplement humaine. Et donc, c'est aussi ça qui m'intéresse d'aller chercher, c'est ce qu'on est capable de faire alors qu'on le croyait absolument impossible. Et je vois que dans la réalité, il y a des choses incroyables qui se font. Enfin, qui aurait parié que cette maman pourrait soulever la voiture ? Alors, moi-même, j'ai eu l'occasion d'essayer dans des circonstances très différentes. À une époque où j'étais à Paris et j'avais une vieille 4L, et partant le matin pour l'université, je me rends compte que la 4L qui était garée comme il faut hier, la veille, était serrée, mais par choc contre par choc, devant et derrière, par des camionnettes et une autre voiture, et que donc il n'y avait pas un centimètre de jeu pour faire un créneau. Donc je me dis, bon, allons-y. Donc je me penche vers la voiture sur le pare-choc en me disant une 4L, en plus c'est pas lourd, j'avais 20 ans, mais rien à faire, enfin, impossible de soulever une voiture. Et à ce moment-là, j'ai pensé à un autre truc, vous savez, vos grands-parents souvent, ils vous disaient, si tu crois en quelque chose, même les parents, très fort, ça peut arriver, si tu veux, tu peux. Vous voyez, moi, ma grand-mère m'a dit ça tout le temps, si tu te concentres, ça va arriver. Donc je me dis, bah, il faut que je sorte cette voiture, donc il va arriver quelque chose. Enfin, peut-être que d'un coup, je vais devenir super forte. Et une minute après, arrive un camion de déménagement et quatre déménageurs qui sortent en me disant « Bonjour, vous avez un problème ?» Alors je dis « Bah ouais, regardez, ils m'ont dit « Ah oui !» Et donc les quatre types, ils ont pris la voiture et ils l'ont sortie. Voilà. Et donc je suis partie très 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 loin. Mais donc moi, je suis capable de rien. En revanche, la pensée positive, ça peut arriver, moi j'y crois, et la capacité folle, les ressources incroyables qu'on a au fond de nous, qu'on ne révélera jamais, sauf en situation extrême, j'y crois aussi. Et dedans, ça traverse un peu
tout
vrai, le
ça,
temps.
C'est
quoi.
Notamment le personnage du père aussi, qui va puiser aussi au fond de ses... Alors, je me posais une question, Sandrine Colette, c'est quand même aussi un roman sur une famille. Hein, est-ce que pour vous, Alors, c'est peut-être pas le thème premier, mais quand même, il y a les rapports père-fils, c'est quand même très présent. Est-ce que ce thème justement de la famille vous intéresse particulièrement? Est-ce qu'il est dans votre inspiration, dans votre écriture Et c'est vrai qu'il est quand même aussi présent dans ce livre, On était des loups, même si, bien sûr, il y a tout ce qu'on a déjà évoqué, les rapports... Voilà, une question.
Oui, la famille, moi, c'est un de mes thèmes de prédilection qui traverse beaucoup de mes romans. La famille, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la force des liens du sang, qui fait que quoi qu'on fasse, moi je connais des familles en rupture et je connais des familles fusionnelles, et quoi qu'on fasse, on est du même sang. Et donc ça reste, même si on refuse. Et donc je vois ce que ça donne comme comportement. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est pareil, des études que j'avais... Enfin, un article, c'est pareil, je ne sais jamais de qui et je ne sais jamais où c'était. Donc c'est pas
hyper... Vous vous rappelez de la teneur de l'article.
Je me souviens de la substantifique moelle, mais en fait, ce n'est pas très précis. Un article en psychologie qui affirmait que 80% de ce que nous sommes aujourd'hui à l'âge adulte, de nos comportements, de notre caractère, de nos goûts, vient de l'enfance. Donc vous imaginez que ça m'intéresse d'aller voir ce que nous étions à 80% de nous, ce qui nous est arrivé enfant, pour expliquer ce que nous devenons adultes. Et la famille, en fait, c'est un vivier inépuisable. C'est quand même le premier lieu de l'amour et le premier lieu de la coercition. En fait, c'est un paradoxe permanent. Ce sont des relations de pouvoir entre les enfants et les parents, qui va prendre le pas. Il y a des époques de test entre les frères et les sœurs, jusqu'aux moindres choses. C'est ça qui me fascine, c'est que je trouve que n'importe quelle toute petite chose qui a l'air anodine peut être extrêmement passionnante. Et moi, j'avais pas mal lu Pierre Bourdieu à une époque. Pierre Bourdieu écrit un article sur la place à table dans les familles. C'est quand même fabuleux. La place à table, et donc il y a un tout petit clin d'œil dedans. Liam, enfant, s'assied un jour en courant plus vite à la place de son père. Et son père l'envoie valdinguer d'une baffe dans la tête. Et je me souviens, Pierre Bourdieu expliquait bien que les places à table ne sont jamais au hasard et qu'il y a une énorme différence entre les familles où aucune place n'est attribuée, rare apparemment, c'est-à-dire que tout le monde se met à chaque fois n'importe où, et les familles où c'est très codifié, c'est-à-dire que le père est en bout de table en général, et puis à sa droite il y a l'aîné, la mère est du côté de la cuisine, bon, pardon. Voilà, mais il y a en fait... un vrai discours, une vraie symbolique et un vrai rapport de pouvoir dans les places à table. Et la moindre petite chose du rapport en famille, moi, me semble que ça peut donner un roman entier. Bon, pas sur les places à table, mais oui, quand même.
Oui, alors il y a cette nature évidemment très présente. Alors il y a ce titre, très beau titre, On était des loups. Est-ce que c'est important pour vous un titre de roman? Est-ce que du coup, est-ce que pour ce cas de figure, le titre vous l'avez trouvé rapidement? Il y a des passages, notamment un très beau passage sur les loups qui chantent. Enfin bon, je crois que c'est Liam qui dit ça. Il ne veut pas qu'on dise que les loups hurlent, mais plutôt qu'ils chantent. Cet univers du conte. Est-ce que ça, c'était le titre importe? Est-ce que c'est indispensable pour vous pour avancer en écriture? Ou bon, parfois il arrive que vous ne l'ayez qu'à la fin ou en cours d'écriture.
Oui, et souvent on ne l'a qu'à la fin, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il reflète très exactement ce qu'on a envie de dire du livre. Mais c'est aussi un jeu, le titre. À la fois on essaye de trouver quelque chose qui donne vraiment une image du livre, mais à la fois, pas pour celui-là, il faut parfois composer avec son éditeur qui vous dit que le titre que vous avez trouvé est clairement nul.
Ça vous est arrivé?
Alors, pas avec mon éditeur là, avec celui d'avant.
De Noël, non?
Oui, c'était chez De Noël. C'était presque systématique, au point que je me souviens de mon troisième roman, en tout cas. Donc, les deux premiers, ça avait été La Cata, les titres que j'avais proposés. Et donc, le troisième roman, au moment de l'envoyer à mon éditrice, c'était un thriller en montagne. J'avais marqué en titre, là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Entre parenthèses, tu peux changer de titre, je m'en fous. Donc voilà. Et ensuite, on en discute et puis on trouve quelque chose. Mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les désirs et les élans littéraires de l'auteur et l'éditeur qui sait beaucoup mieux ce qui peut aussi faire envie quand on entre dans une librairie. Mais ça, on l'acquiert aussi petit à petit. On était des loups, je l'ai proposé tout de suite. Et quand je dis que c'est aussi un jeu, c'est un jeu avec le fait que, par exemple, je me souviens, d'un article où un journaliste explique, il y avait eu des études même faites dessus qui expliquaient que dans une librairie, un livre sur la couverture duquel il y a un chat a à peu près 3 fois plus de chances d'être pris dans les mains par un potentiel lecteur. Et à l'époque, il y avait aussi des éléments du titre. Par exemple, s'il y avait girl dans le titre, s'il y avait éventuellement rose. Enfin voilà. Donc il y avait tout un panel, etc. Donc on en avait parlé avec une libraire. Je lui avais dit c'est quand même mal barré. Elle m'a dit oui parce que toi tu peux mettre un chat noir pendu à une grange, oui. Mais je ne sais pas si ça va plaire. Et donc je pense que finalement les loups c'est mon petit chat à moi. C'est-à-dire que je me suis posé la question, en fait, aussi, j'aimais ce titre, je me dis, mais si je voyais un livre en librairie avec ce titre, est-ce que j'aurais envie d'aller voir ce qu'il y a en quatrième ? Et je me suis dit oui. Vous voyez, il faut que ça résonne. L'éditeur était partant à 100%, donc là, on était raccord.
Je n'aime pas qu'on dise que le loup hurle, parce que ce n'est pas ça, hurler. Quand un clébard s'énerve, là, je veux bien. Le loup, lui, il chante. C'est très différent. Ce n'est pas gueuler pour gueuler. Il y met du cœur et des intonations, surtout quand ils sont plusieurs. Ça me donne des frissons. Et je n'ai qu'une envie, c'est faire partie de la meute. Ça vient de loin, à l'intérieur de moi. Des fois, je me réfrène, sinon je les accompagnerai. Je donnerai de la voix, moi aussi, pour avoir cette sensation de ne pas être seul, et j'irai courir avec eux. Bien sûr qu'ils ne veulent pas de moi, mais je comprends ce qu'ils ressentent. Je crois que je comprends ce qu'ils se disent. Les gens qui trouvent que leurs chants sont tristes sont passés à côté. J'en ai vu des loups qui chantaient, j'en ai vu de mes yeux. J'étais caché dans la montagne, et je peux dire qu'ils n'avançaient pas l'air triste, pas du tout. Ils causent, c'est tout. Et si nous, les hommes, on se parlait en chantant comme ça, il y aurait peut-être moins de problèmes entre nous. Mine de rien, Liam, il a la jugeote. Enfin, c'est quelqu'un qui peut paraître... En effet, il l'est aussi, un peu primaire, brut, voilà, direct. Mais en même temps, voilà, bon, c'est vrai que c'est le livre est un cheminement. C'est vrai. Alors moi, j'y ai vu aussi, là, vous allez me dire, il y a une citation quand même d'entrée de jeu c'est extrait de la Genèse. Je ne sais pas si c'est quand même pas un hasard, j'imagine. Ça va de soi. Isaac parla à son père Abraham. Mon père, dit-il, et Abraham répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bûches, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Il y a, j'ai envie de dire, peut-être dans ce livre un peu, vous approchez ce thème un peu de la rédemption, non ?
On essaye. En fait, j'ai l'impression de tourner autour de l'idée de la rédemption depuis longtemps, puisque c'était le premier roman que je voulais faire et où je me suis royalement plantée. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Des nœuds d'acier il y a 10 ans, je voulais écrire un roman de quête, de recherche, d'évolution, quelque chose de très poétique et de rédemption. Et puis finalement, j'ai écrit un horrible polar avec 2 vieux complètement déments. Mais un mal pour un bien, hein, puisqu'il a été repéré. Il était tellement affreux que, du coup, il y a des journalistes et des libraires qui ont dit « Ah là là, on a rarement vu un truc aussi horrible, donc on en parle. Mais le cœur de... Oui, ce que je voulais faire vraiment depuis le début, c'est de tourner autour de la rédemption. Et donc j'ai plusieurs romans, il me semble, qui sont sur ce chemin-là. Et celui-ci en fait partie, effectivement. Mais bon... Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est le trait le plus prégnant dedans, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure du conte, je pense que ça le traverse au moins autant.
Oui. Et qu'est-ce qui vous attire dans le conte, justement ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Qu'est-ce qui vous... Ce côté universel, l'aspect
c'est
profond
que... Oui, c'est profond, si vous voulez. Un conte, en fait, vous mettez une forêt, un héros et un ogre, et puis c'est bon. C'est toujours pareil. Voilà. Non, je plaisante, mais oui, c'est le côté universel du conte. Ça m'est arrivé, moi, de lire des petits romans, souvent courts, parfaitement... c'était pas crédible, l'histoire, si vous voulez. Et en fait, c'est tellement magnifique, c'est tellement bien écrit, c'est tellement émotionnel, c'est tellement que vous leur pardonnez tout. En fait, on le sait dès le départ. Ce n'est pas que les romans ne soient pas bons. Hein, c'est assumé le fait que on parle. Je pense à un roman chinois où il y a tout un village quitte sa région parce qu'il y a eu de la sécheresse depuis des mois, des mois, des mois, en dehors du fait que ça fait écho en nous et qu'on n'annonce pas de pluie avant encore au moins des mois qui s'avéreront finalement être 2 ou 3 ans. Donc tout le village décide de partir. Simplement, dans ce village, il y a un vieil homme qui sait qu'il n'a pas la force de les suivre et qui va décider de rester, lui, au village. Et il reste tout seul avec un vieux chien pelé et un épi de maïs. Pardon. Rationnellement, c'est pas jouable. En fait, c'est magnifique. Et c'est un conte, finalement, un conte sur l'ardeur, un conte sur la vieillesse, un conte sur la faim, un conte sur plein de choses. Évidemment, le vieux parle à son chien et le chien répond quasiment. Donc là aussi, on accepte. En fait, le livre a une force et une qualité telle qu'on est d'accord avec ça. Et aussi, je pense, parce que justement, c'est de l'ordre du conte et qu'on est d'accord pour qu'il y ait du merveilleux qui ne s'explique pas.
Un peu un roman aussi d'initiation, enfin quelque sorte de cheminement, puisque le père quand même va évoluer, aussi on ne va pas en dire plus, mais c'est vrai qu'il est aussi traversé par des sentiments un peu voilà, difficiles. À un moment donné, lui dit, quand il parle de son fils, il est ému, il regarde, bon, ça commence comme ça, du coup, le roman s'ouvre par ça, par le regard du père sur son fils, donc ça c'est quand même pas anodin non plus. Et ensuite, il lui dit, mais à un moment donné, c'est quand la peur naît, quand il y a la naissance de la peur, c'est là où tout peut finalement basculer dans un sens ou dans l'autre, ça, on peut aller vers l'angoisse encore plus. Bon, c'est vrai qu'il est, vous en faites jamais un personnage manichéen, vous évitez tous ces clichés. C'est vrai aussi que la nature, elle est très présente, elle est époustouflante, elle est là, elle est brute, elle est sauvage, mais voilà, il y a des rapports entre les hommes et les animaux, mais c'est jamais angélique. Vous essayez de montrer aussi qu'au sein même au sein du monde animal, les choses ne sont pas toujours roses. Enfin, j'insiste bien pour montrer l'ensemble des choses que vous tentez d'approcher dans le roman.
Oui, c'est quand même fondamentalement le roman d'un père qui ne veut pas être père. Hein, c'est un roman qui questionne l'instinct paternel. Et je me dis, mais on n'est pas si loin de la nature, parce que dans la nature, il n'y a quand même pas beaucoup d'exemples d'espèces où le père s'occupe des enfants, des petits, une fois qu'ils sont nés. Hein, ça, c'est le travail des mères. Et lui, il le dit au départ. Il le dit, les enfants, c'est le travail des mères. D'où, effectivement, quand il va se retrouver confronté tout seul à ce petit garçon, le dénuement total dans lequel il est, qui se mue à la fois en désespoir et à la fois en colère, en disant il est là, il est dans mes pattes et il m'empêche de vivre finalement. Dans la nature, il n'y a quand même pas beaucoup, en dehors des animaux qui élèvent collectivement, le rapport individuel aux petits, c'est vraiment le travail des mères, effectivement. Ouais, donc le père, il vient faire la roue, quoi, en espérant une galipette, mais guère plus.
Oui, à un moment donné, il écrit, enfin, c'est vous qui écrivez, bien sûr, mais il dit, parce qu'il dit « je », donc « je suis en colère contre la terre, la vie, le monde, et le monde, je jure, je lui ferai la peau. La peau du monde, je la tendrai sur un cadre, je la raclerai jusqu'à la dernière miette de sa chair, et je l'exposerai devant chez moi pour que l'on sache ce qui se passe quand on me fait du mal. » Il y a cette dimension de la colère aussi. Et il se retrouve en effet face à une... Alors c'est aussi traversé par l'idée, bien sûr, il ne veut pas l'abandonner, mais en même temps, il y a une quête aussi familiale, puisqu'à un moment donné, il essaie d'aller proposer de laisser le fils donc, à un vieil
oncle. Un oncle, voilà, oui.
Donc il y a ce cheminement constant, ces hésitations, ces peurs, ça vous le rendez très bien jusqu'au bout.
Enfin, oui, ben ça, c'est le cheminement du livre, hein, c'est le va-et-vient permanent qu'il y a entre le refus de ce petit garçon, d'avoir ce petit garçon avec lui, et le fait qu'à un moment il ne peut pas faire autrement parce qu'en fait ça lui colle à la peau. Mais y compris quand je disais tout à l'heure, vous savez, quand on pense très fort à quelque chose, parfois ça arrive, et rarement de la façon qu'on pensait. Et lui, finalement, je me retrouve, lui se dit la même chose, il chevauche Ils sont partis avec l'enfant, avec Haru. Le père est toujours devant. L'enfant est toujours derrière. Ils ne sont jamais côte à côte. Hein. Le père devant, Liam se dit exactement ça. Il dit, si j'y pense très fort, quand je me retournerai, avec un peu de chance, il aura disparu. Voilà. Il se retourne et le petit est toujours là. Et voilà, et donc c'est cette espèce de sidération, en fait, sur le fait que rien ne marche comme avant et que le petit est toujours là et qu'il faut faire avec, enfin, jusqu'à un certain point.
C'est ça, en fait, voilà, gagner du temps pour voir comment, mais finalement, bon, on va pas en dire plus, mais c'est vrai qu'il faut faire avec. Vous avez commencé par écrire, vous le disiez tout à l'heure, Sandrine Colette, par écrire des polars, en fait. Vous les qualifieriez de polars, vraiment, parce que là, on est dans une tension. Bon, c'est plus du tout, évidemment, on n'est plus dans la même veine, mais il y a quand même toujours ce côté rude, direct, de sentiments un peu exprimés au scalpel. Avez-vous le sentiment d'avoir évolué dans votre œuvre et d'être passé peut-être plus dans du roman noir, on va dire, à quelque chose qui touche maintenant, en effet, qui est dans une dimension de l'universalité aussi, mais qui n'est plus du roman noir?
Oui. J'ai vraiment le sentiment d'avoir commencé par 3 thrillers, catalogués thrillers, etc. Et ensuite, dès le 4e, qui était Il reste la poussière, qui se passait en Patagonie dans un élevage de moutons, avec une famille complètement dysfonctionnelle, là, d'avoir changé, d'avoir glissé vers le roman noir, qui est, je crois, ce que je fais toujours aujourd'hui, en fait, avec plus ou moins de noirceur et plus ou moins de lumière. C'est juste le jeu de l'un et de l'autre, l'équilibre qui change un petit peu d'un roman à l'autre. Donc je pense que je suis restée très sombre, mais qu'en revanche, effectivement, je suis complètement sortie du domaine ou des codes du polar ou du thriller, que par ailleurs je ne connaissais pas. Donc c'est uniquement parce qu'un éditeur m'a collé cette étiquette sur le dos que j'ai su que je faisais du polar. Parce que moi, j'avais envoyé mon premier roman comme roman, hein, et on me dit « génial, le polar ».
Donc, il dit, appris, en fait.
Oui, c'est ça, mais on n'a pas. Quand on a une idée, on raconte une histoire. Écrire un roman, c'est raconter une histoire. Et il n'y a pas un moment, il me semble, où on se demande si c'est un polar, si c'est un roman de littérature blanche. Oui, si c'est, si c'est un feel good. Non, en fait, on est tenaillé par ça. On raconte cette histoire et après, on verra. On verra ce qu'on en dit. Alors, effectivement, là, c'est le jeu des éditeurs. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais varié de ça. Je raconte des histoires.
Bah, écoutez, c'est un effet très bien de raconter des histoires. Oui, comme ça fait un peu plus de 45 minutes que nous sommes ensemble, je vous passe la parole. Sandrine, peut-être avez-vous des questions, des remarques Oui, monsieur, oui.
Oui, d'abord, merci.
Prenez un micro qui va vous être apporté.
D'abord, merci pour ce roman et puis pour tous les autres. Une question. Vous avez au moins 2 reprises évoqué votre premier roman, Des nœuds d'acier. Il y a une question que je me pose. Moi, j'ai perçu pas mal d'analogies. On retrouve même les deux vieux là. Enfin, il n'y en a plus qu'un, mais enfin, il est tellement épouvantable qu'il vaut bien les deux autres, Des nœuds d'acier. La question que je me pose, c'est est-ce que donc ces analogies hein, qui existent entre ces deux textes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez au départ envisager, travailler, ou bien est-ce que c'est apparu comme ça un petit peu au hasard, ou bien est-ce que c'est à la fin que vous vous êtes dit, tiens, finalement, il y a plein d'éléments de ce type-là. Alors, je voudrais savoir si c'est effectivement quelque chose de volontaire et qui, en même temps, effectivement, c'est très, traduit bien cette évolution de votre manière d'écrire et puis de votre univers. Même si, effectivement, vous avez encore beaucoup de travail avant d'arriver au feel good. Hein.
c'est pas
un conseil non plus. Hein.
D'accord, merci. Alors, je crois qu'en fait, c'est pire ce que vous avez imaginé. C'est-à-dire que les analogies... Je vous avais raison pour les analogies, quelque part, entre On était des loups et des nœuds d'acier. C'est que je ne m'en suis jamais rendu compte. Je m'en suis rendu compte le jour où, livre fini et sous presse, une de mes éditrices me dit... Ah, incroyable, cette figure du vieux qu'on retrouve. Je lui dis qu'on retrouve d'où mais des nœuds d'acier, c'est... J'ai eu l'impression de revenir, de trouver cette figure du monstre, en fait, hein, figure universelle, donc du conte, donc de l'ogre. Et moi, j'étais complètement passée au travers. Donc, je pense que ce sont plus des tocs, plus des fascinations, mais en aucun cas un travail volontaire, parce que je n'ai pas essayé de tisser des liens entre les deux, effectivement. Et je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait des vieux sauvages partout. Donc, c'est assez drôle, quoi, la façon dont l'analyse vous rattrape une fois qu'il y a des gens extérieurs qui lisent le livre, parce que quand on est à l'intérieur, qu'on passe quand même des semaines, des mois avec, vous savez, c'est comme quand on écrit un texte, même à l'école avant, une disserte ou n'importe quoi. Quand c'est votre texte, vous ne voyez plus les fautes d'orthographe. Il faut que quelqu'un d'autre le regarde. Hein. Nous, on passe à travers. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Je ne vois pas les liens, je ne vois pas les travers, je vois rien. Quoi. J'ai l'impression que chaque livre est une expérience unique. Et après, il y a des gens comme vous et comme mes éditrices qui font des liens. Et je me dis, mais oui, nom de nom, oui, en effet. Donc, c'est quand même l'intérêt aussi que ça soit lu ensuite. Pour le feel good, oui, j'ai abandonné.
Oui, encore de la marge, c'est vrai. D'autres remarques, réflexions, questions? Oui, madame? Le micro va vous être.
Merci pour ce merveilleux roman et les autres aussi. Il y a une partie, sans dévoiler le livre, qui m'a un petit peu angoissée, même limite dérangée.
Vous ne racontez pas tout?
Non. je voulais savoir si vous étiez posé la question jusqu'où vous iriez, ce qui m'a semblé dévoiler la partie animale finalement de Liam pour sa survie. Je me suis dit jusqu'où elle va arrêter. J'ai pas pu lâcher le livre à ce moment-là parce que j'avais peur en même temps. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes dit je m'arrête là ou c'est bon là je...
voilà. En fait, la question éventuellement dans la violence ou dans ce qui peut être dérangeant, moi elle se pose de manière très aiguë d'une seule façon, c'est est-ce que chaque scène que j'écris est effectivement qui est poignante, qui est émouvante, qui est éventuellement violente, va servir à quelque chose après dans le livre. Si elle est gratuite, je la supprime. Effectivement, une scène de violence juste pour faire une scène de violence, c'est-à-dire voir un type se faire égorger, pas là, hein, éviscérer, grignoter, etc. Si ça sert à rien, si c'est juste pour qu'il meure, je préfère le suggérer. En revanche, si cette scène-là sert à ce que 30 ou 100 pages après, on se dise « Ah, mais oui, c'est pour ça ». Là, je me dis « Ça participe au cheminement du livre, donc je le garde ». Et ma limite est là. Mais j'ai fait des choses horribles quand même. Hein. Oui, mais ça servait à quelque chose, vous voyez. C'est toujours le principe d'un mal pour un bien. S'il y a un petit bien derrière, je le garde. Et sinon, je ne le fais jamais gratuitement.
Merci beaucoup, Sandrine Collette. Merci à vous de votre attention.
Merci beaucoup.
Donc, je précise que vous êtes sur le stand des éditions Lattès, ce stand L8. Et donc, je vous invite à poursuivre la discussion avec Sandrine Collette, qui va donc dédicacer son livre. Merci à vous et bonne suite de Foire du Livre. Merci.